Bonjour à tous et bienvenue. Vous écoutez Blooming You, le podcast qui vous propose un sas de décompression pour vous aider dans un monde qui s'accélère à penser mieux, manger mieux et consommer différemment. Nous avons une ambition, celle de vous inspirer, vous aider à mieux vous connaître, à penser vos vies autrement et surtout vous faire du bien. Chaque semaine, nous vous donnerons des clés de compréhension pour servir cet objectif, au travers de rencontres inspirantes, de partages d'expériences ou encore d'éléments culturels qui nous font progresser. Je suis Amal Dadol, votre hôte, et j'espère que ce contenu fera sens pour vous. Aujourd'hui, on aimerait comprendre les mécanismes de l'hypersensibilité et les implications dans la vie quotidienne, à la fois chez l'adulte et chez l'enfant. Je suis ravie de recevoir aujourd'hui la psychologue et psychoclinicienne Jeanne Ciot-Fachin, qui va nous aider en deux épisodes à décrypter les formes d'hypersensibilité et nous éclairer sur le lien entre l'hypersensibilité et les hauts potentiels. Qu'est-ce qu'un haut potentiel? Est-ce que tous les hauts potentiels sont hypersensibles? Les hypersensibles sont-ils tous des hauts potentiels? Ce sont ces questions que nous avons posées à Jeanne Ciot-Fachin. Bienvenue à tous dans le deuxième épisode de Découvrir et vivre l'hypersensibilité. Salut Jeanne!
Bonjour Amal!
Bon, bah, toujours heureuse de t'avoir avec nous.
Bah oui, écoute, moi aussi, hein, j'adore.
Et donc là, ce qui nous réunit aujourd'hui, pour faire suite à l'épisode 1 sur l'hypersensibilité, là, aujourd'hui, nous allons la lier au potentiel, avec la notion, enfin la qualité, est-ce qu'on peut appeler ça une qualité, je ne sais pas, au potentiel.
Ou en tout cas, la spécificité.
La spécificité du haut potentiel, ouais. Des hauts potentiels.
Oui, parfait.
Je vois souvent passer des ouvrages qui lient les deux, hypersensibilité et haut potentiel. Du coup, moi, je m'interroge déjà, qu'est-ce que c'est qu'un haut potentiel? Et est-ce que tous les hauts potentiels sont hypersensibles? Et les hypersensibles sont-ils tous des hauts potentiels?
Ouh là là, ça fait beaucoup de questions passionnantes, tout ça. Alors, on va commencer par le début, si tu veux bien.
Ouais.
Alors.
Avec joie.
Alors, en fait, quand on parle de haut potentiel, alors tu sais que la terminologie a changé. On parlait de précocité, on parlait de surdoué, qui est c'est le premier ça. Terme qui a été introduit en France par un psychiatre, d'ailleurs, franco-argentin, Ajuria Guerra. Et puis, au Québec, avec leur accent inimitable, ils parlent de douance.
Ouais.
Et c'est de la Suisse et de la Belgique que nous est venue la terminologie de haut potentiel en réalité, donc de pays francophones voisins. Et c'est une terminologie qui maintenant a été adoptée en France, et ce d'autant plus que cet hiver 2019, il y a eu plusieurs commissions dont j'ai eu la chance et l'honneur de faire partie à l'Éducation nationale, pour travailler autour de l'accompagnement pédagogique et de l'accueil des élèves avec ces particularités intellectuelles dans les classes ordinaires, dans les classes de la République, en fait, dans l'école de la République. Et ces enfants-là étaient appelés EIP pour enfants intellectuellement précoces jusqu'à cet hiver. Et là, donc, depuis cette commission, maintenant, sur tous les textes officiels et sur le site du ministère qui s'appelle EduSchool, on parle de EHP pour élèves à haut potentiel. Donc en France, l'Éducation nationale a également adopté cette terminologie de haut potentiel, qui est finalement la terminologie qui est la plus courante aujourd'hui, y compris dans toutes les publications scientifiques et les publications grand public. Donc voilà, donc HP pour Harry Potter, évidemment, puisque Harry Potter est un enfant atypique qui doit néanmoins aller à l'école pour transformer son potentiel en talent, comme tous les enfants du monde, et qui souvent se sentira en décalage parce que, étant un enfant particulier, il n'aura pas toujours les mêmes réactions ou la même sensibilité, justement, que les autres enfants, et qu'il peut avoir besoin, Harry Potter, de se retrouver avec des jeunes sorciers qui fonctionnent comme lui. Donc voilà pour le clin d'œil pour Harry Potter, mais c'est très intéressant parce que Harry Potter montre bien comme parfois c'est compliqué de pas être dans la norme, dans la normale statistique, donc d'être en marge, quelle que soit la marginalité que l'on est, mais en même temps l'importance de pouvoir aussi, par exemple, par rapport à l'école, c'est-à-dire que c'est pas parce que tu es dans la marche, si je reprends l'exemple d'Harry Potter, que tu dois pas aller à l'école pour transformer, c'est pas parce que tu as un potentiel, justement, tu vois, Harry Potter, il a le potentiel d'être sorcier, ouais. Mais il faut que ce potentiel, il puisse être travaillé et qu'il puisse effectivement l'enrichir pour qu'il puisse en faire un talent dont il saura se servir. Donc ça, c'est très important. Donc voilà, donc HP pour au potentiel, évidemment, et il est dit et communément admis dans la communauté scientifique qu'une personne enfant ou adulte est à haut potentiel à partir du moment où cette personne obtient 130 de quotient intellectuel sur une échelle d'intelligence validée, c'est-à-dire qu'il obtient un score d'intelligence égal ou supérieur à 130. Alors 130, c'est 130 rien, c'est-à-dire que ce n'est pas une mesure de l'intelligence. Ce n'est pas une mesure comme des centimètres ou des kilos. Hein. On n'a pas 130 boucaf d'intelligence. Mmh. 130, c'est un score totalement relatif, qui est un score qui a été calculé avec des évaluations statistiques. Et on sait, enfin, avec une base qui fait qu'une personne dite intelligente normalement, c'est-à-dire dans la norme statistique, a une intelligence de 100.
D'accord.
La norme de l'intelligence, c'est d'avoir 100.
D'accord.
Et après, on s'écarte de 100 de 15 en 15. C'est ce qu'on appelle les écarts-types hein, dans le milieu scientifique. Et donc, soit en plus, donc 115, puis après 130, puis après 145, ou de l'autre côté, donc en moins, c'est-à-dire 85, 70, etc.
Okay.
Et on considère que 50% de la population, dans tous les pays du monde, hein, a un score de QI qui est compris entre 90 et 110. Ça, c'est, tu vois, une personne sur deux a un QI compris entre 90 et 110. Et donc, plus tu montes du côté des écarts-types en positif, donc plus tu as une intelligence élevée. Donc, en fait, le haut potentiel, ça signifie que tu as un niveau intellectuel qui est plus élevé que ce qui est habituel. Tu vois, donc comparativement à une norme de personnes de ton âge chronologique. Donc, c'est un score relatif, c'est pas un score absolu.
Okay.
Et donc être à haut potentiel, c'est d'avoir donc cette puissance de l'intelligence, cette puissance de la pensée, une capacité d'analyse beaucoup plus élevée, une mémoire plus étendue et plus puissante, une rapidité de compréhension, d'analyse et de traitement des informations. C'est-à-dire entre le moment où on capte les informations vers l'extérieur et le moment où elles arrivent au système nerveux central, ça va beaucoup plus vite, ça va d'ailleurs deux fois plus vite d'après les études quand on est surdoué. Les informations qui, enfin quand on est à haut potentiel, tu vois, je suis rattrapée par la terminologie plus vieillotte. La vitesse de transmission des informations dans les neurones, donc nos cellules nerveuses, dans notre système nerveux, la transmission des informations est beaucoup plus rapide quand on est à haut potentiel. Donc il y a vraiment une rapidité de traitement des informations et donc une forme de fulgurance et puis même de, on pourrait dire que toi, toutes ces compétences cognitives combinées, ça donne aussi une forme de niveau de conscience plus élevé, c'est-à-dire une capacité de se saisir du monde avec une perception à 360 degrés et tu vois des profondeurs de champ beaucoup plus importantes, c'est-à-dire plus tu es intelligent sur un plan cognitif, plus tu comprends, tu perçois, tu analyses, tu captes, tu fais des associations avec des choses que tu sais déjà, tu vois, tu réévoques des connaissances ou des compétences auxquelles tu compares un savoir nouveau. Donc, tu vois, plus ton potentiel, justement, ton potentiel d'intelligence est élevé. Donc ça, c'est la définition scientifique, basique du haut potentiel, c'est une personne qui statistiquement a un potentiel intellectuel plus élevé de deux écarts-types au-dessus de la norme. Donc 100 plus 15 plus 15, 130. Mais bien évidemment, et c'est là où on va faire le lien avec la sensibilité, et plus exactement l'hypersensibilité, c'est que l'intelligence, on oublie que... Alors c'est très compliqué la définition de l'intelligence. Qu'est-ce que l'intelligence? Il y a quasiment autant de définitions que de chercheurs, même si on considère que les tests d'intelligence dont on dispose aujourd'hui permettent d'extraire une forme de fonction générale de l'intelligence, c'est-à-dire une espèce de pouvoir central de l'intelligence. Et ce qu'on oublie, donc, c'est que intelligence, étymologiquement, c'est interligérer, c'est-à-dire c'est faire des liens. Donc faire des liens, comme je viens de le dire, avec ce qu'on capte, ce qu'on comprend, ce qu'on analyse, mais aussi faire du lien avec ce que l'on perçoit, c'est-à-dire faire du lien avec ce que l'on perçoit par l'intermédiaire de ces cinq sens. Et donc ce que l'on perçoit par l'intermédiaire de ces cinq sens, eh bien ça s'appelle la sensibilité. Donc plus on est intelligent, plus on perçoit, donc par la force des choses, plus on est intelligent, plus grande est la sensibilité. Donc c'est pour ça qu'il y a un lien entre l'hyper-intelligence ou le haut potentiel et l'hyper-sensibilité, parce que l'un ne peut pas aller sans l'autre. Et là encore, comme l'ont largement démontré les travaux d'Antonio Damasio avec ce livre Princeps dont on parlait, l'erreur de Descartes, mais tous les travaux actuels, c'est-à-dire que les émotions sont complètement partie prenante de notre capacité à être intelligent.
Ouais.
Et donc, plus on est intelligent, plus on a cette hyper, ça s'appelle d'ailleurs hyperesthésie, c'est-à-dire la capacité élevée de l'ensemble de nos cinq sens. Donc plus on perçoit, plus on brasse en permanence ce que nous apporte la compréhension, l'analyse qui vient de notre fonctionnement cognitif, de notre fonctionnement de notre appareil à penser et à savoir. Et tout ce que va nous procurer notre système sensoriel, donc les sens, la sensibilité qui va nous être fournie donc par nos cinq sens, et que ça soit la vue, l'ouïe, l'odorat, le toucher, la kinesthésie ou l'idée, comme plus on est intelligent, plus on brasse d'émotions, parce que une pensée entraîne dans son sillage instantanément une émotion. Il n'y a pas une pensée qui est complètement froide et complètement dénuée, tu vois, comme un fil qui serait dénué d'une gaine.
Mais qui vient en premier, c'est l'émotion ou la pensée?
Alors ça, c'est un vaste débat auquel je n'aurais pas la prétention de répondre. Mais la tendance actuelle, en l'état actuel des connaissances et de notre compréhension justement des émotions, qui est quand même un champ de recherche en psychologie qui est assez récent. Ouais. Et il est fort probable que ça soit l'émotion qui vienne en premier, parce que c'est le corps qui vienne en premier. Et surtout, ce qu'on sait maintenant, c'est qu'on parle des neurones du ventre. On a 200 millions de neurones dans le ventre, dont l'architecture est semblable aux neurones qu'on a dans le cerveau. Et il semblerait que ce soit les neurones du ventre qui capte d'abord l'information en présence 300 millisecondes avant qu'elle transite à notre système nerveux central et donc à notre champ de conscience. Et donc c'est pour ça probablement que le langage populaire dit « je ne l'ai pas senti dans mes tripes, celui-là je ne le sens pas » ou « j'ai eu le ventre noué », tu vois, toutes ces expressions, ou même avoir des papillons dans le ventre. En fait, ce sont les neurones du ventre aussi qui réagissent et qui interagissent. Et puis on sait aussi que les neurones du ventre produisent 95% de la sérotonine, et la sérotonine, c'est une des hormones essentielles dans notre humeur et dans la balance De notre humeur et de notre sentiment de satisfaction, de plaisir, tu vois. Donc 95%, c'est énorme. Ça veut dire que quand le ventre ne répond plus, dans les neurones du ventre ne répond plus, et ben notre système nerveux central n'a plus que 5% de possibilité de produire la sérotonine. Donc faut vraiment vivre des moments particulièrement forts pour que tu vois que ça déclenche cette production. Donc la sensibilité justement des neurones du ventre fait que on est perméable à ce qui se joue dans notre environnement, et les informations qu'on capte avec le ventre, et qui sont très liées à l'intuition, hein, d'ailleurs, hein, l'intuition c'est dans le ventre, hein, c'est dans le ventre qu'on sent les trucs, c'est pas dans la tête. Ouais. Sauf que quand ça arrive dans la tête, on balaye très vite en disant « mais non, attends, c'est pas possible, ça peut pas être ça, blablabla », ça va à une allure folle, notre mental, pour venir contrebalancer ce que notre intuition nous avait fait considérer une demi-seconde avant comme « évident, mais c'est évident ». Et donc, toutes ces informations entre les neurones du ventre et les neurones du système nerveux central, elles transitent par quoi? Elles transitent par ce fameux nerf vague. Et c'est quand on parle de faire certaines personnes font un malaise vagal, ça veut dire qu'il y a une surcharge émotionnelle et qui fait que le nerf vagal est disjoncte.
D'accord.
Et que ça passe plus. Et c'est pour ça qu'on tombe dans les pommes. Ou c'est pour ça qu'on sent mal. Donc le nerf vague, c'est le nerf le plus long de notre système nerveux et qui passe par tous nos organes. Donc c'est un nerf capital. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que donc la question c'était, est-ce que ça vient d'abord la pensée ou d'abord l'émotion? Donc il est aujourd'hui en tout cas plus que probable, mais bon, on verra dans les quelques années qui suivent, hein, parce que longtemps on a pensé que c'était la pensée qui venait avant les émotions, que c'était la pensée qui entraînait l'émotion avec elle, et d'ailleurs c'est là-dessus que sont basées toutes les thérapies cognitives et comportementales, c'est-à-dire qu'on change la pensée pour changer l'émotion.
C'est vrai.
Aujourd'hui, il y a une bascule avec les thérapies troisième génération, où on considère justement que c'est l'émotion qui vient en premier et qui va déclencher
la pensée.
Donc, voilà. Et donc, en fait, on voit bien que, de toute façon, cette discussion nous confirme bien que le lien est indissociable
bien
entre
sûr.
Pensée et émotion, et que, ceci expliquant cela, plus ton intelligence est élevée, plus ta sensibilité est élevée, donc plus tu as un haut potentiel, plus tu es hypersensible. Mais ça ne veut pas dire, à l'inverse, que tous les hypersensibles ont un haut potentiel. C'est-à-dire qu'on peut être hypersensible, c'est-à-dire que c'est une particularité de notre système sensoriel qui n'a rien à voir avec une intelligence élevée. Donc ça aussi, c'est intéressant parce que il faut bien distinguer les deux. Tu peux être totalement hypersensible et capter des tas de trucs et pour autant pas avoir cette espèce d'intelligence très acérée, très aiguisée, très fulgurante, tu vois, très, très complexe finalement. Parce que plus tu es intelligent, plus tu as une intelligence complexe, plus tu as une intelligence qui se ramifie dans un certain nombre de directions, qui va faire des hypothèses et encore des hypothèses.
Très créative.
Oui, très créative et très réflexive, tu vois, qui est capable aussi de penser sur elle-même et de mettre en œuvre tout ce système métacognitif en fait, tu vois.
C'est passionnant.
Oui, c'est passionnant, c'est pour ça que je te disais que j'étais contente de parler de ça, parce que c'est un sujet passionnant et c'est un sujet en plus, les hauts potentiels, on pourrait avoir l'impression que c'est à la mode, hein, parce qu'effectivement il y a beaucoup d'ouvrages, de plus en plus d'ouvrages, d'articles, de médias qui s'en préoccupent, mais en fait c'est pas, il n'y a pas plus de haut potentiel qu'il y en avait il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 30 ans, il y a 100 ans, hein, puisque de toute façon, justement par rapport à ces normes statistiques de QI dont je parlais tout à l'heure, ça concerne, et ça concerne toujours aujourd'hui, 2,3% de la population. Ce qui est à la fois pas beaucoup et beaucoup, parce que 2% de la population, ça veut dire qu'il y en a 2 par classe, par exemple.
Ouais.
Tu vois, et que voilà, dans une boîte, il y en a plein. Si tu vois, s'il y a une boîte de 30 personnes, et ben, t'y en a. S'il y a une boîte de 100 personnes, t'y en a encore plus. Et de 500 personnes, encore plus. Enfin, ça veut dire que finalement, il y en a beaucoup, même si c'est une petite proportion. Et c'est très important ça peut être très important de le savoir, en particulier pour certains enfants qui peuvent avoir des difficultés avec leur scolarité. C'est très important de pouvoir l'identifier, d'abord parce que c'est une ressource énorme d'avoir ce haut potentiel, et que c'est pas parce que tu as un haut potentiel que tu as des difficultés à l'école, mais quand tu es haut potentiel, tu peux te sentir en décalage par rapport à l'école, tu peux t'ennuyer à l'école, tu peux avoir besoin d'avoir un autre rythme scolaire, et puis tu peux aussi bien évidemment avoir, là je parle pour les enfants mais pour les adultes c'est pareil, mais c'est plus courant pour les enfants et les adolescents, avoir un haut potentiel mais en même temps avoir par exemple un trouble des apprentissages comme une dyspraxie ou un trouble de l'attention, et pendant longtemps, comme tu as ce haut potentiel, ton intelligence va masquer ton trouble, et tout d'un coup vers 10 ans, 12 ans, 13 ans, l'enfant ne va plus y arriver, ne va pas comprendre pourquoi il n'y arrive plus, et l'entourage ne va pas y arriver, donc on va dire, oh là là, mais tu n'es pas motivé, tu as un poil dans la main, tu as toujours très bien réussi, tu étais brillant en primaire, il n'y a aucune raison que tu n'y arrives pas aujourd'hui, il faut que tu te mettes à travailler, etc., ouais. etc. Mais en fait, c'est le haut potentiel qui avait masqué la difficulté, parce qu'avec l'intelligence, pendant longtemps, ça suffisait. Et puis, il y a un moment où ça ne suffit plus. Et donc, c'est quelquefois très important de faire un bilan, justement, parce que ça permet un, de confirmer qu'il y a bien cette intelligence brillante et qu'il y a un vrai atout, une vraie force et un vrai talent qu'on va pouvoir utiliser toute sa vie, mais qu'en même temps, il y a aussi une vraie difficulté qui n'avait jamais pu être diagnostiquée parce que l'intelligence masquée.
Oui.
Et d'ailleurs, par exemple, aux États-Unis, c'est marrant parce que c'est une question de terminologie, ils parlent de « twice exceptional », c'est-à-dire deux fois exceptionnel. Mmh. C'est-à-dire une fois avec le haut potentiel et une fois avec un trouble quel qu'il soit, mais qui est aussi une exception. Une exception dans le sens de marginal. Par exemple, la dyslexie, ça touche à peu près 5 à 6% des enfants. La dyspraxie, ça touche entre 4 et 7%. L'hyperactivité, c'est aussi autour de 5%. Tu vois,
ouais. On va être dans une vision plus positive et moins...
Oui, plus positive. Et puis surtout, on va pouvoir avoir des leviers sur lesquels aussi s'appuyer, tu vois, pour venir compenser la difficulté. Et puis, on va pouvoir mettre un accompagnement adapté à la difficulté de l'enfant ou de l'ado en regard de ce qui se passe et pas d'étiquette qu'on va lui mettre sur le front. T'es paresseux, t'as un poil dans la main, t'es pas motivé, bouge-toi, quand tu veux, tu peux. Non, c'est quand il veut bien. Mais c'est pas tout à fait la même proposition. Donc c'est pour ça que ça peut être très essentiel et souvent ça peut faire une vraie bascule quand on peut diagnostiquer la présence de ce haut potentiel chez certains enfants ou chez certains ados. Ce qui ne veut pas dire dans mes propos que l'identification doit être systématique, parce que tu peux très bien avoir un haut potentiel et être tranquille avec ton intelligence et avec ta scolarité et avec ta vie, et tu n'as pas besoin qu'on vienne te dire ceci ou cela. C'est pas un sujet. Mais quand il y a certaines difficultés qui pointent le bout de leur nez, alors c'est toujours intéressant de pouvoir faire la part des choses, surtout quand il y a quelqu'un de la famille qui a été identifié avec un haut potentiel, ou que ça fait très longtemps qu'il y a un doute qui plane, ou qu'on se dit, mais quand même, tu vois, qu'on lit des livres ou des articles, ou qu'on écoute ce podcast et qu'on se dise, bah, quand même, ça ressemble quand même beaucoup à mon enfant ou à moi. Moi, j'ai beaucoup de témoignages d'adultes qui disent, mais moi, j'ai l'impression, le jour où on a identifié que j'étais HP, donc à haut potentiel, qu'un voile s'est déchiré, ouais, et qu'enfin, j'ai pu mettre du sens sur mon parcours, ouais, sur ma vie, que j'ai compris que j'étais pas si bizarre. C'est un peu l'histoire, enfin c'est quasiment l'histoire du vilain petit canard,
ouais,
tu vois.
Ouais, je vois effectivement qu'il y a beaucoup le sentiment d'imposture,
ouais,
chez les hauts potentiels,
bien sûr, bien sûr,
de pas comprendre en fait en quoi effectivement ils sentent bien qu'il y a un décalage par rapport à leur environnement, et en même temps ils s'en étonnent. Et du coup, il s'auto-accable, il s'accable en fait d'être dans ce décalage-là.
Bien sûr.
Donc il y a une perte de confiance.
Complètement, complètement.
Et il se sent diminué par rapport effectivement à ce qu'il pourrait produire et apporter,
ouais,
à la société,
ouais,
autrement, quoi.
Ouais, ouais, complètement. Et c'est pour ça que même pour certains adultes, vraiment cette démarche est très importante,
ouais,
parce que c'est vraiment une démarche de meilleure connaissance de soi et de réconciliation avec soi, et puis de se donner finalement la possibilité d'être dans le chemin qui nous convient. Ouais. Mais à côté de ça, il y a plein d'adultes pour lesquels ça n'aurait aucun sens parce qu'il n'y a pas de sujet, comme tu disais il y a un instant, tu vois. C'est assez subtil et en même temps, c'est un sujet qui a vraiment son importance.
Ouais. Eh bien, merci Jeanne.
Merci beaucoup à toi.
C'est ce chaleureux entretien, puis tu nous as appris plein de choses. Donc, merci pour tout.
Ben, merci à toi. Je suis ravie de discuter de tout ça avec toi et pour Blooming You. Ça me convient très, très bien.
C'est génial. Eh bien, merci à tous pour votre écoute. Et puis, à bientôt pour un nouveau podcast et sur nos articles. Enfin, voilà. On vous embrasse. Et
à bientôt. Merci beaucoup. Ciao, ciao.
Ciao, ciao. Merci à tous pour votre écoute et votre fidélité. J'espère que ce contenu vous a été utile. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à y mettre des étoiles. Je vous donne rendez-vous sur blooming.fr où vous trouverez la retranscription écrite de cette interview avec toutes les références. Je vous dis à très vite pour de nouvelles rencontres et découvertes. Et en attendant, je vous souhaite tout le meilleur. À bientôt.